Allez, c'est bon, messieurs, dames, c'est parti, c'est vous, c'est nous, c'est eux, c'est... Sport épique. C'est super en ce dimanche matin, puisque je suis avec mon Lionel.
Mais bonjour mon Lionel, tout le monde.
Jeune, beau, qui vient de fêter ses 60. Bah, on dirait pas, mon ami. T'es tout gaillard. T'es tout superbe, mon Lionel.
On essaye. Ça va en tout cas.
On est là. Nico, évidemment, on aura une petite page Ligue des Champions. Nico est là.
Bonsoir
ça,
à tous.
Ça fait plaisir. Et je peux vous dire qu'il a le sourire. Alors, ouais. Peut-être pas forcément en fonction des résultats de la semaine. mais je remarque que ce mec-là n'est plus complètement effondré,
c'est vrai.
Complètement dans le seau quand vous avez la petite équipe de Paris qui
c'est
perd.
C'est pas du au foot, hein. Je me suis mis au bilboquet.
Ah voilà, c'est ton secret.
C'est autre chose. Et surtout, bien sûr, on a eu une chance folle. Et vous qui nous écoutez, on a une chance dingue puisqu'on va toucher à de l'art, on va toucher, attention, du noble art, on va toucher à de la danse, à de la chorégraphie. Et on a pour ça le maître de Laval, on a Baba Diawara.
Ah.
Merci beaucoup, Baba. D'être avec nous.
Merci Baba.
Que d'honneur avec un accueil comme ça, je vais pas partir de la salle. Hein.
Tu les mérites largement parce que Baba Diawara, c'est toi qui vas nous le dire, mais tu es chorégraphe, tu es qui dans l'organisation J2K?
Alors je suis responsable du pôle J2K, donc jeunesse de caractère. Le pôle J2K, c'est un pôle culture jeunesse qui est axé sur le développement de projets autour de la culture hip-hop. Et parallèlement à ça, en fait, la danse hip-hop, c'est un point de départ où autour de ça, on essaye d'avoir tout un maillage d'actions éducatives en direction des jeunes et des familles.
Ouais, c'est très très complet, ça touche beaucoup de choses, vous pouvez vous renseigner évidemment sur internet pour voir, parce que moi tu vois, je pensais que ça balayait que le hip-hop, l'art de rue, mais en fait vous allez beaucoup plus loin que ça.
Tout à fait, moi j'ai un parcours là étant donné que c'est une émission liée au sport, moi dans mon parcours personnel, j'ai commencé par le foot.
C'est excellent ça.
Tout sport qui se développe.
Il a teasé, attends, au stade. Ouais.
Tout à fait, au stade, voilà, pendant de nombreuses
ouais.
années.
Oh, mec est meilleur que nous en plus.
On joue le dimanche matin.
et ensuite, du coup, j'ai embrayé quand ma carrière n'a pas pu se faire comme beaucoup.
Voilà,
comme beaucoup. La frustration dans la dynamique sportive, en tous les cas, ça a été de trouver un palliatif. Et dans l'art, en tout cas, j'ai trouvé ce palliatif-là dans l'art aussi. Et puis, au niveau de la culture hip-hop, il y a pas mal de compagnies à l'époque avec le service jeunesse, moi, quand j'étais ado, qui étaient venues donner des stages et des cours ici, de Nantes, de Paris et de partout en France. Il y avait un gros projet qui avait été piloté à l'époque par le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, CNDC. Et pendant un an et demi, voire deux ans même, il y avait tout un tas de stages en direction de jeunes de Laval qui avaient été identifiés, qui étaient déjà un petit peu mordus de la culture.
Ouais.
Des jeunes du Mans, de Nantes, de La Roche-sur-Yon et d'Angers. Et donc, c'était environ une vingtaine de danseurs du Grand Ouest, dont nous, on a fait partie de ce gros collectif-là, piloté par le CNDC, pour acquérir des compétences en termes de pédagogie, de technique, etc. Et pour ensuite, après... chacun a pu voguer dans ce qu'il avait envie, on va dire, de développer comme projet. Puis moi, ça a donné J2K.
Voilà. Parce que là, vous, c'est devenu du lourd. Alors après, moi, je ne sais pas ce que c'est au niveau national, mais en tout cas, sur ce qui se passe dans les départements, votre festival, c'était courant octobre.
C'est ça.
J'y étais, moi, au théâtre, et je vous ai vu danser. J'ai vu les chorégraphies, et c'est du très, très sérieux. Et donc, bravo pour tout ça. Bravo. Donc, c'est toi, là, qui repère les artistes. C'est toi qui... Ouais, ça, c'est ton rôle.
Ouais, c'est mon rôle de repérer un petit peu les différents spectacles qu'on souhaiterait programmer, nous, dans le cadre du festival. Donc, pour ça, pendant à peu près 6 à 7 mois, j'essaye de vraiment être en contact avec différentes compagnies en France, regarder pas mal de captations. Quand je peux bouger à droite à gauche, je bouge aussi un petit peu. Et puis, à partir de là, ce qui ne se fait pas de manière habituelle, on va dire, dans des lieux référencés sur le département, nous, on essaye en tout cas de proposer un autre visage de la culture hip-hop qu'un visage, on va dire, un peu plus Maria, de la danse contemporaine ou autre, ouais. On essaye aussi de faire découvrir au grand public ce que c'est que le hip-hop dans son jus, la véritable culture,
ouais.
Telle qu'elle est, et pas forcément diluée avec aussi d'autres esthétiques, parce qu'au départ, il fallait commencer par là pour beaucoup de compagnies pour être acceptées dans les théâtres.
Sûrement.
Et aujourd'hui, fort heureusement, voilà, les choses ont changé.
Oui, Baba, tu nous parles de culture hip-hop. Alors, c'est vrai que nous, on pense danse tout de suite, hein, mais ça va au-delà de ça, j'imagine. Parle-nous un petit peu de je sais pas, de ce qui se passe au niveau du graphe, du son. C'est quoi la culture hip-hop de ce côté-là?
Alors, la culture hip-hop, c'est 4 à 5 gros éléments. C'est la danse, le rap, le beatbox, le DJing et donc le graphe. Et donc ces 5 composantes-là forment un petit peu les différentes branches de la culture hip-hop. Après, sur le Poly 2K, moi, par rapport à mon parcours, on est plutôt axé à la danse. Après, on a essayé de développer pas mal au tout début, quand il n'y avait pas beaucoup de rap, différents concerts en lien avec des partenaires tels que le 6x4 ou d'autres associations qui étaient sur Laval. Après, vous parlez concrètement de ce qui se fait en termes de graphes ou au niveau des DJ, ça serait vous mentir d'aller loin dans ce type d'explication là, parce que j'en ai vraiment un regard un peu plus en surface, mais la danse est plutôt un domaine qu'on maîtrise.
En tout cas, et oui, Baba, comme tu l'as dit hors antenne tout à l'heure, tu l'as dit, c'est vrai que c'est essentiellement pour ce pôle là que tu es là, pour la partie danse, parce que nous, on est des fouteux de base, et forcément, danse égale tout ce qui va avec. Et donc, quand je regarde ton spectacle, enfin ce spectacle en tout cas au théâtre l'autre jour, c'est pour ça que je viens te voir directement derrière, parce que je me dis, il faut que tu viennes là, parce que là, on s'est trompé quelque part. Le truc, c'était déjà, c'était extra, la chorégraphie était top, mais ensuite il y a une vraie performance physique en plus. Et tu vois, moi c'était deux hommes et une femme, oh, ils finissaient, c'était en sueur, ils ont fait une vraie performance là pendant trois quarts d'heure sur scène. C'était vraiment un très beau moment physique, purement physique. Et je me dis, à travers tout ça, est-ce qu'il y a un entraînement, tu vois, comme on peut, bah toi, si t'as connu le Stade Lavallois, est-ce qu'il y a un entraînement, est-ce que c'est comment, c'est aller monter des genoux, faites des talons fesses, ou c'est comment l'histoire?
Ça dépend du background de chacun, parce qu'il y a des personnes, ils vont plutôt s'entraîner à travers la danse. Moi par exemple, comme je viens du foot, j'aime bien, étant donné que j'ai donné pas mal de cours, mettre en place des séances et des ateliers avec mes jeunes autour du renforcement musculaire.
Ouais.
On fait beaucoup de séances de fractionnés.
Ah ouais.
Pour aussi permettre à nos élèves, quand ils sont sur scène, d'avoir une bonne condition physique, parce qu'en fait c'est la répétition c'est des efforts parfois qui peuvent être très intenses pendant 3-2 minutes, mais vraiment de manière poussée, et après le temps de récupération, il va être très important pour ensuite renvoyer de nouveau. C'est c'est différent du foot, parce qu'on doit couvrir des grandes distances, mais on va dire l'intensité de l'effort, elle peut être très 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 importante sur une très courte durée, et du coup le temps de pause pour pouvoir récupérer fortement et pour pouvoir renvoyer par la suite, c'est important. Donc moi je travaille beaucoup en fractionné, en tout cas sur les...
On parlait de foot, mais quand tu parles de timing, moi j'ai envie de... ça me fait penser à des sports de combat, de la boxe, avec la récup là, qui est super importante.
Complètement, et c'est un bon comparatif, parce qu'en fait, au niveau du karaté et de beaucoup de sports de combat, déjà dans le break, dans tout ce qui se passe au niveau du sol, donc ce qu'on appelle le breaking, il y a beaucoup de choses qui viennent des sports de combat, beaucoup de mouvements, et donc ça vient de là. Ça vient, il y a beaucoup de choses qui viennent de là aussi.
Et c'est sacrément cardio, tout ça. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, toi? T'es jeune ou pas jeune, d'ailleurs, hein, je ne sais pas qui est ton public, mais est-ce qu'on vient chercher justement une activité physique, ou est-ce qu'on vient chercher une activité artistique?
Alors à l'époque où je donne... Enfin, là, je donne beaucoup moins de cours maintenant, mais... quand j'avais beaucoup d'élèves, on venait chercher les deux, en fait. Et c'est d'où tout... La petite polémique qu'il y a eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, concernant l'intégration du breaking au niveau des Jeux Olympiques.
Bien sûr.
Qui nous interpelle.
Voilà. Pour beaucoup, donc ça a pris la place du karaté. Ouais. Et on a entendu pas mal d'anecdotes de la part de journalistes, hein, que ce soit Nelson Montfort, qui a pas mal tapé sur le breaking pendant les JO. David Douillet également. Ouais. Donc non, c'est pas un sport. Et c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment entre les deux. Ouais. Et c'est un art sportif à part entière.
Ouais.
Pour moi, franchement, je pourrais même pas vous dire d'un point de vue personnel si l'un prend le dessus par rapport à l'autre. Mais la partie artistique, pour moi, s'il y en a une qui devrait prendre le dessus, ce serait quand même la partie artistique. Parce que voilà, c'est une culture à part entière. Il y a une histoire. Et c'est pas juste le fait de sortir des mouvements comme ça.
Mais tu vois cette fameuse polémique JO qui nous aussi, hein, on se pose la question. Moi, j'ai du mal avec tous ces sports-là, à savoir le surf, j'ai toujours dit, l'escalade, ouais, toutes ces choses. Donc le hip-hop encore plus, qui revendique la liberté, qui revendique la rue, qui revendique. Et là, on vous met sur une scène avec des codes très spécifiques. Il faut même avoir quasiment des noms déjà préétablis. Si on s'appelle pas machin, bah, c'est pas bon. Et tu vois, moi, je trouve que ces sports-là, ça va complètement à l'encontre de votre idée de base qui est liberté, oui, qui est un petit peu, on fait ce qu'on veut, ce qui nous plaît, en tout cas.
Je comprends complètement. Après, je comprends aussi, il y a quand même eu une forme de reconnaissance pour les b-boys, donc pour les breakers, d'être au JO. Donc toute la partie, on va dire, athlétique et la dimension sportive de cet art-là, elle a été prise en compte. Et donc ça, c'était, je pense que ça a fait du bien à tout un pan, on va dire, de cette culture-là.
Ouais.
Voilà, après, à côté de ça, tout ce qui est nouveau, et ce que tu expliquais tout à l'heure concernant le fait qu'il y a une part de liberté qui est importante au niveau de la culture hip-hop, ça, c'est vrai, l'enfermer dans des codes, là il y avait un système de notation qui était assez précis, qui a été mis en place depuis peu de temps, je pense que ça a quand même bien fonctionné oui, au niveau des JO. C'est juste que c'était dommage que c'était sur des chaînes. Il fallait être courageux pour aller chercher. Mais je pense que voilà, ça a été dans un bel écrin.
Ouais, ouais. Mais je te dis, le débat est le même pour moi avec le surf, l'escalade, toutes ces activités-là.
Lionel. Oui, on peut même parler de performance en JO où il y a l'art et la performance physique qui font totalement part de la performance. Et je pense au patinage artistique, qui va remettre en cause le patinage artistique, alors que la notation se fait sur la performance physique et sur l'art. Le ski de boss maintenant aussi avec la part artistique.
Mais ça, t'as pas ce côté culture de rue, culture de liberté, mais... culture de machin.
Non,
là, t'es enfermé dans une patinoire.
Bah ouais, le patinage artistique, déjà par le lieu, t'es obligé, c'est dans un lieu précis, etc. Ouais. Quoi.
Alors
t'es
que ce souffle de liberté de la rue.
Ouais, c'est où tu veux, quoi. C'est forcément codifié, le patinage artistique.
T'as aussi de l'artistique au niveau natation aussi. C'est les
ouais,
quoi,
ils font
le
synchro,
bien sûr.
Synchro, c'est ça,
bien sûr. Et toi là-dedans, là, quand tu crées une choré, parce que ça c'est pareil, c'est un truc qui me fascine moi dans les chorégraphies, c'est que je veux bien que tu aies une idée un jour, t'as l'idée géniale, tu vas écrire l'assommoir, formidable, t'es un super écrivain, mais comment tu te réinventes, cette chorégraphie-là elle est finie, on passe à une autre, comment t'as les idées, comment ça devient, sachant que on le répète, tu viens du foot, c'est pas du tout la même culture.
Bah en fait... c'est pas la même culture, mais si je vais me permettre de faire un comparatif avec par exemple, je parlais des Brésiliens et du sens naturel du parfois que peuvent avoir beaucoup de Brésiliens, parce que c'est pas non plus, on va pas cataloguer, mais que peuvent avoir beaucoup de Brésiliens dans le dribble.
Ouais.
Dans cette notion de spectacle aussi qu'ils peuvent avoir, et puis ce toucher particulier qu'ils peuvent avoir. C'est une forme d'art pour beaucoup quand on la regarde.
Ouais.
Moi j'ai le souvenir de Carlos Moser, c'est vrai que
j'ai tendu le bâton pour faire battre. Mais c'est pour ça
c'est
que
le
c'est pour ça que j'ai dit certains Brésiliens. on va pas cataloguer et dire tout le monde.
Le toucher à la carotide.
mais oui, Carlos Moser, ça me parle, donc je comprends et c'est pour ça que j'ai dit certains. Mais pour moi, c'est un parallèle qui est intéressant parce que en fait, Ronaldinho, Neymar, c'est
évidemment
des artistes. La façon dont ils se déplacent sur un terrain, ce qu'ils font avec un ballon, etc. La façon dont ils sentent le football, c'est une forme. Je suis désolé, mais là, c'est de l'art. Ça en devient de l'art. Maradona, ouais. Ça en devient de l'art. Donc là, pour en revenir à de la danse et ce côté créatif, parce qu'il faut être créatif pour créer ce genre de geste. Dans la culture hip-hop, il y a une part où, au niveau de ce qu'on ressent, moi, quand je crée des chorégraphies, je ne suis pas dans le côté intellectualisé, je vais parler de ça ou ça ou ça. J'ai besoin d'être dans de l'émotion, mais chaque chorégraphe, ça va être différent. Moi, en tous les cas, j'ai besoin d'être dans de l'émotion. Ce que je vais ressentir sur un temps donné et de choses voilà, qui font écho en moi, ça peut être des injustices, ça peut être l'amour par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, par rapport à des proches, etc. Mais en tout cas, ce qui me fait écho chez moi sur une période donnée, je vais avoir envie de le retraduire de manière dans la gestuelle. Et puis quand il y a quelque chose qui va être un peu plus prégnant et que j'aurais envie d'un peu plus pousser, je vais partir de ce que je ressens en plus profond pour essayer de formaliser tout ça. Et puis à partir du moment où ça vient de manière très sincère, la forme, elle en devient très précise. Parce que j'ai appris techniquement à mettre ça en avant.
Et alors dis-nous si c'est un don, si ça se bosse, si c'est machin, parce que tu prends un Fred par exemple, je peux te jurer que ça donnera rien quoi, tu le feras bosser.
Pour une fois je suis assez d'accord avec toi.
Il en ressort rien, c'est nul. Et d'ailleurs il y va pas.
Ouais, voilà, exactement.
T'y vas pas. Et moi, tu vois, à contrario, moi j'adorerais, moi j'y vais,
mais ton corps refuse.
Mais c'est pareil, je suis moche et il y a rien qui vient, tu vois, et ça m'est pas complètement de voir certains, tu mets un rythme et pim pam, c'est parti, c'est tout de suite ce qu'il faut. Et ça, dis-moi, oui, il y a quelque chose d'inné, que je suis pas complètement débile.
Pour moi, encore une fois, c'est pareil, vu que vous êtes des mordus de foot et moi aussi, on peut faire. Il y a des danseurs qui vont avoir pour moi une danse un peu plus sportive, donc beaucoup plus carré dans la technique ou dans le flow, ce qu'on appelle le flow, ce qu'ils vont dégager, le style. Ça va être moins, on va moins le voir. Et je peux parler par exemple d'un Neymar avec son dribble ou Ronaldinho ou d'autres. Et on peut avoir d'autres techniciens, je sais pas moi, comme Xavi ou Iniesta ou autre, dans ce qu'ils vont dégager en termes de style. Même si c'est très très beau, ça n'est pas la même chose qu'un Neymar ou autre.
Exactement.
Donc en termes de style, on est dans ce genre aussi de choses. Mais donc c'est.
Benoît, c'est plus Hortzrubetsch. Mais bon.
J'adorerais attirer ça. C'est génial que tu aies ce double discours-là. Parce que pour nous, ça fait complètement écho. Et c'est vrai que ça éclaire. Je ne sais pas, vous, messieurs-dames, ce que vous en penserez, oui. Mais pour nous, ça fait écho. C'est sympa, ouais, Lionel.
Oui, on parle beaucoup de créativité. Et Dieu sait si je veux bien le croire. Mais est-ce qu'il y a quand même une part de figure imposée? Un spécialiste comme toi, quand il voit une prestation, tu dis oui, là il vient de faire ça, etc.
Complètement. On va dire, il va y avoir l'effet waouh au niveau du break, du breaking, où dès qu'on va se mettre en l'air, on va faire un Thomas ou bien une coupole ou tourner sur la tête, etc. Donc, ça, c'est des choses, ce sont ce qu'on appelle. C'est vraiment des.
Les figures imposées dont je parle peut-être.
Ce sont des bases au niveau du breaking qu'on voit très souvent et qui renvoient à ce côté vraiment spectaculaire que tout le monde connaît, que le grand public veut voir. Après, pour les danses debout, comme vous avez vu au spectacle du vendredi avec la compagnie Anne Nguyen, on est dans le popping, donc dans des contractions musculaires un peu plus à la Michael Jackson, pour faire simple et que nos auditeurs
t'as raison, ouais.
Donc là on est dans autre chose, on n'est pas dans un rapport spectaculaire, on est dans une forme d'esthétisme qui est différente. On n'est pas dans l'attrait performance, mais on est dans un autre style de performance, moins physique, mais tout aussi joli à regarder, mais moins physique.
Ouais. Complètement.
Donc voilà, il y a ce qui est intéressant dans la culture hip-hop, c'est que voilà, il y a le côté vraiment physique au niveau du breaking, et dans les danses dites debout, comme vous avez vu au niveau du popping, on est dans un rapport qui est complètement différent. Et moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, quand j'ai commencé le hip-hop, c'est cet aspect magique qu'on peut... Enfin, tout de suite, j'ai trouvé ça magique, en fait.
Ouais.
J'ai trouvé ça magique. Et c'est de cultiver ça et de le transmettre. C'est ce que j'ai aimé dans cet art.
C'est pour ça que si on veut bien prendre conscience de toute cette culture, ce festival, il faut aller voir dans son intégralité. Dans son, parce que, évidemment, moi, j'ai vu qu'un petit morceau. Finalement, j'ai fait qu'une soirée. Et j'ai eu donc ce que tu appelles dans ce debout, du coup. Voilà, qui était une part. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais, comme tu dis, tourner sur la tête et ainsi de suite. Et j'ai eu autre chose. J'ai eu cette danse du robot, du machin, du truc, qui était extra. Mais je ne m'attendais pas du tout à voir ça, quoi. Mais je te dis, il y avait une dimension physique de fou. Et j'ai vraiment passé un très, très bon moment. Ouais.
Oui, tout à l'heure, dans ton introduction, tu as parlé d'action éducative auprès des jeunes et des familles. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Oui, tout à fait. En fait, à partir de la culture hip-hop et de la danse, moi, en fait, j'ai passé un brevet d'état à un moment donné. Ça s'appelait médiation culturelle en musique. En fait, c'est comment partir de la culture pour travailler sur des projets éducatifs. Et moi, je ne conçois pas cette culture, je ne conçois pas ce qu'on m'a légué sans pouvoir utiliser ça comme un outil pour faire du lien. Et en fait, l'hip-hop, ça m'a transmis aussi des valeurs. Au niveau, on parle beaucoup d'efforts aujourd'hui et de performance, mais dans la répétition de l'effort, dans le fait d'aller chercher toujours le max et demander toujours un max à ces jeunes qu'on a et qu'on encadre pour aller le plus loin possible. Aussi, on fait beaucoup de liens et de parallèles avec les études. Moi, je sais que quand on a des enfants qui sont, par exemple, en difficulté scolaire et qu'on échange avec des parents, quand à travers la danse, ils arrivent à performer, je leur ai dit que l'effort qu'ils mettent d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, il est également possible de fournir la même quantité d'effort pour arriver à un résultat aussi intéressant. Et pour ma part, quand on arrive à fédérer des groupes d'une vingtaine, trentaine, à un moment donné, j'ai jusqu'à 250 élèves au niveau de la ville. Ouais. Quand on arrive à fédérer différents groupes dans différents quartiers pour pouvoir faire des chorégraphies et faire des concours ou des prestats à droite à gauche, des fois, je me disais comment transposer cette énergie-là de la salle à la vie quotidienne. Donc, c'est de là où, en fait, on a travaillé sur des projets où on a parti, par exemple, dernièrement, il y a quelques années, c'était il y a 5-6 ans, on est parti au Cambodge. Et parce qu'il y a un groupe qui a beaucoup performé et qui a eu des résultats intéressants dans le cadre d'un concours chorégraphique. De là, moi, j'ai activé mon réseau. Ils ont pu être programmés dans différents endroits entre Paris et le Grand Ouest. Ils ont réussi à avoir une petite cagnotte qui se sont constituées parce qu'ils ont été payés pour ces prestations-là via la petite association qu'ils ont créée. Et puis, comme je connaissais quelqu'un qui était aussi éducateur à Paris, qui, par le biais de l'athlétisme, lui travaillait avec des jeunes des banlieues, avait déjà fait un projet au Cambodge. Et en fait, sachant ce que je faisais moi sur Laval, m'a mis en lien avec une personne au Cambodge pour qu'on puisse aller proposer à la fois notre spectacle là-bas. Et en même temps, en fait, on savait qu'il y avait des personnes âgées qui étaient dans un village qui avait besoin de lunettes et qui n'avaient pas forcément les moyens pour équiper les personnes âgées là-bas. Donc on a fait un partenariat avec un médecin d'une ONG et on a récolté avec Opticien Mutualiste 300 paires de lunettes qu'on a triées ici en fonction des différents degrés, etc., de vue et tout, et on les a ramenées là-bas et on a fait toute une journée où on a proposé un spectacle. En même temps, on a distribuer les lunettes aux personnes âgées, et c'était juste magnifique parce que juste le fait, par exemple, de mettre les lunettes aux personnes âgées qui n'en avaient pas, c'est comme si elles redécouvraient le monde, en fait.
Ouais.
Et quand on touche du doigt ce que la culture elle peut porter comme sens à des jeunes comme ça, alors qu'ils sont partis, on est là, on va dans la salle et puis on kiffe, mais je leur dis non, là vous avez un groupe, vous êtes bien, vous êtes solidaires, on peut faire plus. Après ça, c'est mon rôle.
Donc, ouais. Voilà. Et bien, alors évidemment, super. On a dépassé le sport, mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. Tu me fais énormément penser à Pierre Bouguier. Je sais pas si tu connais notre Pierre à nous là, qui est dans toute la culture aussi chant et ainsi de suite, qui partage énormément et qui donne énormément de plaisir aux personnes âgées. Tu fais beaucoup penser à lui. On joue, messieurs. On joue avec les différents styles de danse. Attention, soyez bons. J'en ai référencé 25. Alors soyez forts. Non, c'est toujours Lionel qui démarre les jeux, évidemment. Baba, tu confirmes ou tu infirmes, évidemment, à chaque fois. C'est à toi, mon Lionel, sois fort.
Il faut que j'en dise une. Si je dis la valse, ça passe.
Valse, c'est bon, je prends la valse. Ouais, j'ai Fred.
La polka.
Non, ça c'est pas bon ça. Mais dis-moi des choses simples pour l'instant.
Danse folklorique.
N'importe quoi. Nico.
Le smurf.
C'est une danse.
Ça démarre bien. Le jeu,
c'est une danse.
Non, mais c'est pas
confirme,
dans mes 25. Donnez-moi des trucs. Baba, c'est à toi. Sois un peu plus intelligent que les autres. Voilà, ça, tu vois.
Entre ça et la polka.
Madison. Et pique pas les tours des autres, toi.
La danse classique, tout simplement.
Voilà, c'était le 1, ça. Je vous dis qu'il est plus malin que vous.
Si je dis tango.
Oui, j'ai le tango.
À la valse, c'est bien le tango.
J'ai bien, ouais, excellent.
La country.
Ouais, il y a ça dans le truc.
Le zouk,
pas mal, je te le compte quand même.
Il n'y a pas de truc moderne, ok.
Mais il n'y avait pas. Si, il y a. Baba.
Danse africaine,
exactement.
Le rail.
Non, c'est pas bon.
C'est un joueur de foot brésilien, mais.
Non, t'es éliminé.
Non, j'ai deux bonnes réponses. Attends, ça va venir.
Ouais, ça vient pas du tout. Non. De la danse. Mais si, quand même, danse. Qu'est-ce qui se fait maintenant beaucoup? C'est plus la danse classique, c'est la danse.
Contemporaine.
Et l'autre qui
Modern jazz.
Modern jazz.
Ah ouais, modern jazz, bien sûr.
Si t'as besoin d'un conseil, tu m'appelles.
Tout l'Amérique du Sud, là, un peu, là. Il y en a d'autres, là.
Ouh, oui.
Salsa.
Salsa, l'autre.
La rumba.
La zumba.
La zumba, la bachata, la machin, là. On est là.
La capoeira.
Voilà, c'est bien. Vous avez été pas mal. Vous avez des petits frères, des petites sœurs dans le département. Je sais que moi, du coup, en ouverture de votre programme, ce fameux vendredi soir, c'était Jazzline de Bonchamp. Et pareil, donc c'est à Bonchamp. Tu dis, ça va être la petite compagnie de danse. Il va falloir regarder les gamines qui dansent. Moi, je me suis dit, non, je ne suis pas là pour ça. Et en fait, pareil, super moment. C'était très professionnel. C'était très bien fait. Je ne sais pas si vous avez des liens.
Ça fait 35 ans que ça existe, Bonchamp Jazzline.
Ouais, mais enfin, tu te dis, la petite compagnie de danse du bled d'à côté, tu dis ça va pas être extraordinaire. Si il y avait vraiment quelque chose.
On aime bien Muriel, le travail que fait Muriel là-bas, c'est la chorégraphe et la prof, et du coup on l'invite très souvent avec ses élèves parce qu'on aime bien ce qu'elle fait. Et puis c'est assez dynamique et tout. Et puis on aime bien.
Ouais. Et il y en a beaucoup alors dans le département des petites écoles de danse.
Oui, il y en a pas mal. Après, vous avez sûrement dû voir, après Muriel, il y avait l'association Cadence. Moi, il y avait quatre jeunes filles en rouge, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
Donc ça, c'est un spectacle que j'ai chorégraphié.
Et d'accord.
Donc c'est des élèves qui sont d'un niveau avancé. Après, il y a des cours au Conservatoire de Laval, il y a des cours... C'est surtout le conservatoire au niveau de la danse.
Et comment il y a l'USL, il y a une école de danse à l'USL aussi.
L'USL,
il y a tout. Ça...
C'est vrai.
Comment on te rejoint, Baba, dans tout ça?
Moi, comme je donne plus de cours, on me rejoint plus.
Vous n'avez pas de chance, c'est fini. Fin de carrière.
C'est ça. Et je donne juste des cours à un petit noyau de 10 personnes le vendredi soir à la maison de quartier d'Hilard. Qui veulent performer autour de la session avec laquelle on est parti au Cambodge, qui s'appelle Cadence.
D'accord, je vais rejoindre ce groupe-là, moi. Alors là, je suis le cador. Lionel,
Une petite question concernant ton rôle de programmateur, parce que j'ai l'impression qu'on en est là. Est-ce que est-ce que le chaînon manquant a un rôle maintenant au niveau de ton activité? Est-ce qu'il y a des découvertes là qui t'intéressent?
Du tout.
Du tout, voilà, c'est non.
Du tout. T'es pas là-dedans. Bon, Baba, tu nous avais dit une demi-heure, t'as été formidable, bah, okay. ça fait un plaisir de dingue de t'avoir.
Bah, merci à vous, c'était cool.
Ouais, on n'avait pas eu cette chance jusqu'ici d'avoir toute cette culture, ouais, que ce soit danse ou que ce soit hip-hop ou autre, et bah, ça fait du bien. Donc, on arrêtera aussi de nous taxer de simplement fouteux de base et ainsi de suite. On s'ouvre sur Sport Épique, évidemment, et c'est important. Baba, t'as une musique pour nous, pour la coupure?
Pour la coupure ou
fais-toi plaisir.
Allez, attention. Allez, bon, on te redemandera pour la coupure.
Musique de la musique. Il y a un spectacle qui vient de sortir issu de la BO de la haine avec un morceau d'Akhenaton. Si vous le trouvez, je sais pas.
Bien sûr, Joël.
Je vais ça. Allez, on vous retrouve tout de suite après et on aura forcément une page Ligue des Champions avec Nico.
Nico.
Une page Cossel Vivien et Marie-José Pérec. Vous verrez le lien et Marie Cossel. Dans le 53 encore.
Marie-Cossel-Vivien.
excellent. Merci beaucoup.
Merci
Baba.
À vous, c'est gentil.
Merci beaucoup.
C'est cool.
À tout de suite. Allez, c'est reparti, c'est fini, c'est nous, on y est, le moment danse, hip-hop, culture de la rue, très bon moment, très très bon moment avec Baba Diawara, et on enchaîne, tout de suite.
Très cool, hein, Baba.
Avec, excellent, excellent, bon Lionel. On enchaîne avec quelque chose d'insolite, messieurs. Qu'est-ce qui va se passer mercredi à Cossé-le-Vivien? On a une star, nationale évidemment, mais internationale, qui vient à Cossé. Pour qui? Pourquoi, Nico?
Ça sent des crosses départementaux,
régionaux. Ça tourne autour de la course à pied, oui.
Une compétition déjà?
Non, c'est pas une compétition, c'est une inauguration.
Ah, inauguration de la piste d'athlétisme.
De la piste d'athlète, ouais, tout à fait. Et c'est le nom français qui vient. C'est qui vient? C'est
Marie-Jo Pérec. Celle qui a allumé la flamme aux Jeux Olympiques.
Exactement, ouais, ouais. Exactement. Et
Teddy sera peut-être là aussi, mais bon.
Il se déplace à jamais là-bas. Non, c'est la piste va porter son nom. Hein, donc elle est là en hommage. C'est mercredi prochain, messieurs dames. Bah, si vous voulez évidemment voir la star, le monstre.
Qui s'appelle désormais Marie Cossé-Pérec, c'est ça?
Bravo. Il est drôle, Lionel. Il est drôle. Marie-Jo, on rappelle les années. Nico, s'il te plaît, la grosse année Marie-Jo.
92.
Oui.
Oh bravo, Barcelone. Voilà.
Ouais,
voilà, c'est la découverte. La grosse, c'est 96, c'est Atlanta, mais
avec le doublé. Mais
elle en fait qu'une en 92.
Ouais.
Ouais, 400. Mais c'est la décennie évidemment, Marie-Jo. Voilà, ça c'est bien. On continuera à faire
Que Gilbert appelle la gazelle, je crois.
Mais bon, évidemment. Du département, on essaiera d'avoir Tristan du volet, voir comment va notre volet depuis un petit peu cette disparition de l'entraîneur. On va voir si ça fonctionne tout de suite pour eux. Toujours pour eux, pardon. Mais pour l'instant, on continue avec du foot.
Oh, l'actualité.
Retour aux fondamentaux quand même. le football, la Ligue des Champions.
Notre public ne comprendrait pas.
On joue tout de suite.
Aïe, aïe, aïe.
Je veux le top 16 de la Ligue des Champions.
Le top 16.
Alors, bon, attendez, on va se limiter au top 8 déjà et ce sera pas mal.
Ouais.
C'est toi, Lionel, qui donne les deux. T'as droit à deux tout de suite.
Monaco, Bayern.
C'est raté. Bon, mais c'est pas grave, t'es dans le top 16. T'as Monaco 8 et t'as Bayern 13.
Moi, j'ai Liverpool.
Toi, t'as Liverpool en 1. Bien, mon Fred.
Brest.
Et Brest, c'est toujours dedans, ouais. C'est
11.
Ah ouais, 11.
Ah oui, 11.
Ah oui, il est pas dans les 8.
On est 11. Lionel.
Real. Ah bah non, pardon. Je retire. Benfica, allez hop.
Ouais, Benfica, je te le passe en 14e.
J'ai chaud.
Fred.
Je suis en train de réfléchir là.
Non, il
n'y
a pas à réfléchir,
bien.
C'est facile. Hein. Les 5, 8 premiers, ils sont
4,
à l'aise.
Milan AC.
Ouais, Milan AC. T'as de la chance, 16e. On y va.
L'Inter,
deuxième, c'est beaucoup mieux ça. Ouais, Lionel. Finissez-moi au moins les
Dortmund.
8. Ouais, Dortmund, ça c'est bien. Ancien finaliste. Quatrième. C'est facile encore.
Leverkusen.
Ouais, Leverkusen qui fait
1-1
à Brest.
Hein.
Encore sixième. Ouais. Ça reste du très simple, Nico.
Atlético Madrid.
Je suis combien, l'Atlético? 15.
Ouh là, 15.
Ouh
là,
j'étais proche. J'étais proche.
Ils ont bien remonté. Là, vous êtes pas mal, les gars. Il n'en manque pas des masses. Lionel.
Non.
Du simple en Espagne. Du simple,
ah
simple.
Bon
ah bah oui.
Ouais, bah oui.
Bah oui.
Barça.
Bah oui. Troisième.
Troisième Barça.
Alors qu'ils avaient perdu leur premier match à Monaco. Rappelez-vous, ouais. Fred.
Arsenal.
J'ai Arsenal en 7.
Bien joué. Ouais. Je me demandais en Angleterre ce qu'il y avait.
Dans le 8, il vous manque un Italien, Nico.
Un Italien?
Ouais.
Un Italien?
Ouais.
T'as bien dit un Italien.
J'ai dit un Italien. Et non, Naples, ils sont même pas dans la compétition.
L'autre, l'autre de Turin, alors
La Sampdoria.
Non, un jeu très léché, un jeu qu'on aime.
Atalanta Bergame.
Il vous manque un Français dans le...
Ouais,
Lille.
Bah Lille, ouais.
Évidemment,
Lille.
Il vous manque un Portugais.
Ah, j'ai dit Benfica dans le Sporting, alors.
Le Sporting, et il vous manque un Anglais. Un double nom.
Aston Villa.
Eh ben c'est l'autre dans ces cas-là. Ah, c'est Aston Villa, voilà. Aston Villa et pas ailleurs. Et donc voilà le.
On rappelle. Il a osé.
Parce qu'il y a des gens d'une mauvaise foi qui vous font encore croire qu'ils n'ont pas compris le concept. Donc là, les 8 premiers vont être qualifiés directement. Et après, de 9 à 16, c'est des barragistes. qui rencontreront du 17 au 24.
Ah oui.
C'est ça le concept, c'est pas si dur non plus. Hein.
Bah, ça fait dans les 24 premiers pour se qualifier.
Sur un aller-retour, ouais. Quelque part. Hein.
Oui, oui, oui. Bah, quelque part là, hein, sur, ouais. Sur la Ligue des Champions.
Non, mais je veux dire, c'est pas si compliqué que ça à la base.
Non, c'est pas compliqué. C'est ça, c'est pas compliqué.
Est-ce qu'on peut dire du 9 au 24, ils vont gagner plus de pognon parce qu'ils vont faire deux matchs de plus?
Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sur les gros sous.
Pour se préparer, il vaut peut-être mieux faire ça.
Alors, qui pense quoi? Ouais. Qui pense quoi de cette formule? Moi, je suis fan absolu. Je suis fan absolu. Il y a eu plein de réticences au départ. Ouais, que les gros, les petits, ceci, cela. Moi, je trouve que ça permet d'exister aux petits. Et mine de rien, bah, les gros sont quand même là. Tu regardes les 8 premiers, c'est 8.
Moi, je ne suis, suis pas d'accord avec ça. Là.
Ah ouais?
Ah bah, les gros, ils ne sont pas là. Et il y a des très, très gros qui sont pas bien.
C'est vrai que Liverpool, Inter, Barça, Dortmund, les 4 premiers.
Mettre City, Paris, le Bayern, pas bien du tout. Enfin, surtout City Paris et City, personne ne pensait qu'ils seraient comme ça.
Ouais,
ils sont à l'agonie, quoi.
Ouais.
Le Real est à l'agonie, quoi.
Ouais, mais ça c'est pas la faute de la formule.
Non, parce qu'en championnat ils sont aussi à l'agonie.
Voilà, City.
Ouais, mais regarde, je pense aussi il y a des équipes qui étaient pas prêtes à ça, quoi.
Toi en tout cas, tu préfères pas cette formule-là?
Si, je trouve ça chouette, mais je pense qu'il y a des équipes qui ont vraiment eu du retard à l'allumage par rapport à ça. Ils ont tellement l'habitude de se préparer et de monter en puissance tranquillement. Enfin, pour moi, Madrid, City et l'Atlético de Madrid, c'est pas terrible non plus.
Heureusement qu'ils ont rencontré Paris pour les relancer.
Ouais, exactement. Et je pense qu'ils ont tous ce problème-là. Il y a un vrai retard à l'allumage parce qu'ils savent que la saison ne joue pas maintenant normalement. Mais sauf que là, ils vont être crispés quand même.
Ça va être crispé dans la grosse diff, messieurs, c'est qu'il n'y a pas de match retour. Ce qui fait que vous jouez votre vie sur un match. Mmh. Et sur un match, on sait très bien que
t'es
le foot...
pas dans le calcul.
Si t'es pas trop couillon, bah, tu mets une défense. Hein, quand t'es face à plus fort que toi, tu mets une grosse défense. Et par miracle, tu peux t'en sortir. Bah, des miracles, il y en a. Et ce 3-3 en face de City cette semaine, bah, ça fait partie des miracles. Et bah, c'est génial. Alors, c'est génial quand on aime un petit peu ce truc pimenté. Bah. Mais
Le meilleur exemple, c'est qu'on va avoir un match décisif. Ça va être quand même Brest-Real de Madrid sur le dernier match à Guingamp. Enfin, je veux dire,
c'est incroyable.
C'était impossible. Brest-Real de Madrid à Guingamp, match décisif. Je pense personne ne peut l'avoir écrit. Quoi. Donc,
je vais te dire, ça va être quelque chose, mon frère.
C'est le métaverse.
Prends ta place tout de suite.
Oh, il n'y en a peut-être plus, là. Déjà.
Ça va être dur. Messieurs, je ne sais pas comment vous avez regardé ça, mais moi, j'ai regardé du multiplex, moi.
Ouais, nous aussi.
Et alors je me dis bah le multiplex ça va être super, mais par contre bah il y a plus enfin l'amour du foot, il y a plus rien en fait, on regarde plus du tout une équipe jouer, on regarde juste un enchaînement de buts. Alors je pensais que c'était la solution miracle parce que souvent un match de foot c'est long et chiant. Bah ouais, mais là sauf que du coup c'est but et puis on...
Alors moi avec quelques copains, on a fait un multiplex spécial, on avait juste deux écrans. Ah. Écran PSG, écran Brest.
Ah ouais,
ça c'est
d'accord.
Un multiplex plutôt sympa.
Ouais, franco-français du coup.
Voilà, bah oui.
Voilà, c'est pas mal comme idée aussi. C'est pas mal. Moi j'étais un fervent du multiplex, je le suis moins.
Pas du tout.
Mal,
ouais. Ouais, moi pas du tout.
Après j'aime bien regarder la petite émission qui retrace les buts.
Oui, ça c'est vrai. C'est cool. Mais t'as raison, frère, je comprends tes réticences. Du coup, on peut plus rien analyser.
Tu perds l'essence du. En fait,
tu peux plus dire, lui, il a été bon ou pas bon. Bah non, c'est soit t'as marqué, soit t'as pas marqué, puisqu'on voit que ça. Donc on a perdu un petit peu là-dessus. Et je peux vous dire, il y a. Alors, Nico, je veux pas enfoncer évidemment le couteau, hein, mais tu sens qu'il y a un vrai désamour parce que tu regardes ce multiplex. Bah, ça va, mais quasiment jamais au match de Paris, quoi. Ça y va jamais.
Ah ouais.
Ça va à Brest. Ça va à machin. Ça va aller vers ça va truc et ça vient pas à Paris. Tu te dis, bah c'est si pauvre que ça ou c'est vraiment il y a un désamour derrière là, Nico?
Ouais non bah au niveau du là on peut parler du match de Paris là.
Ouais bah ouais.
Non bah c'est
ce truc que derrière les médias ne suivent plus quoi. Alors oui, qu'avant c'était. Oh,
bah
Paris,
en fait
Paris, Paris,
tu
Paris.
Veux là on voit qu'ils jouent sans âme. C'est-à-dire qu'hier bah tu regardes le match de Liverpool. Ouais non tu vois compare Liverpool tu vois qu'il y a une âme derrière les gens, ils se battent, ils y vont.
Ouais, Liverpool là, mais Madrid il y a pas d'âme.
Je te parle de Liverpool.
Ouais mais
je te parle de Liverpool.
Équipe quoi.
Et c'est ça qui me fait plaisir et en fait quand tu regardes Paris bah petit à petit bah oui bah il y a des amours qui se créent parce que bah tu sens qu'il y a eux-mêmes je pense pas qu'ils puissent comprendre tout à fait ce que veut leur coach et donc après bah ça se retranscrit sur le terrain et donc après bah c'est moins flamboyant et ça donne moins envie quoi.
Et ça donne moins envie. Est-ce que toi, tu t'inscris, est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je dis qu'il y a un certain désamour pour cette équipe, au niveau, je te dis, presse, au niveau télé, au niveau...
Ouais, clairement.
Complètement, ouais.
Ouais.
Complètement. Et puis déjà que quand on était très très bien placé et qu'on atteignait les huitièmes, quarts de finale tous les ans et qu'on avait des grosses stars, etc., il y avait déjà un certain désamour pour nous. Ouais. Et bah là maintenant que ça suit plus.
Là où tu as raison, c'est au niveau de la presse, parce que tu regardes les deux matchs d'équipe française donc de mardi. Je veux dire, Brest peut en prendre 5 ou 6 au Barça. Il y a une différence phénoménale entre les deux équipes. Oui. Donc je veux dire, c'était triste. Enfin, je veux dire, ils étaient à leur place. Alors que c'était beaucoup plus serré quand même entre le Bayern et le Paris. Il y avait du répondant et le match était quand même d'une toute autre qualité. Ouais. Et pourtant, ce qu'il en ressort, Brest, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, etc. Alors qu'honnêtement, là, ils ont touché. Ils ont vraiment touché leurs limites, parce que moi qui ai regardé Brest, tout le match. le gardien fait un super match, mais tu sentais le Barça à l'entraînement, quoi. Les gars, petite roulette, je te la donne là, t'inquiète. Mais là, t'avais l'impression qu'il jouait contre des U17. Et donc,
t'es dur.
C'est vrai.
C'est les limites de la formule.
Moi, j'écoute Nico parce que c'est quand même le grand fan du PSG. Je le trouve dur. J'entends depuis mardi plein de gens qui me disent ouais, mais ça joue bien. Ouais, mais là, toi, le grand fan, tu me dis non, il n'y a pas d'âme.
On ne peut pas se contenter de ça. En fait, c'est toujours là, c'est la réflexion du moment. Ouais, ça joue bien. Ouais, on les a inquiétés. Oh, on a été méchant avec
le
Bayern.
Je trouve pas qu'il y ait des amours
tant
que ça.
À un moment donné, il faut gagner. Mais après, moi, les joueurs, je les plains pas tant que ça, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Là, aujourd'hui, c'est plus au niveau de Luis Enrique, malheureusement, où faut qu'il se pose des bonnes questions. Parce que moi, j'étais content qu'il soit là, à Paris, parce qu'il fallait un mec qui ait de la folie pour être à Paris. Il faut être fou quand même. Mais là, il fait trop le savant têtu, en fait. Et c'est le côté têtu où, il faut marquer des buts. Mais on ne met pas d'attaquant depuis 3 matchs. Donc, au bout d'un moment, c'est comme celui qui disait le parallèle avec la politique, on va promouvoir les véhicules électriques, mais on va fermer les centrales nucléaires. Enfin, bref, il faut être cohérent, quoi. C'est juste, à un moment donné, s'il faut mettre des buts, mets le buteur qu'il y a, mets des buteurs sur le terrain. Comme par hasard, il y a Ramos qui rentre à la fin, ça équilibre un peu plus et on est un peu plus dangereux, on va dire. Mais je suis persuadé que Colomwani, il a quelque chose à en faire quand même, quoi. Donc si Colomani est pas bon, c'est son rôle à lui, c'est le coach aussi de faire progresser les joueurs. S'il n'arrive pas à faire progresser un joueur, ça doit être lui le premier responsable. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il arrête d'être têtu et mettre 5 minutes de terrain.
Et ça nous amène, messieurs, au fameux doute, puisque le doute m'habite, évidemment.
Fort,
évidemment. Dur. Mais quand vous voyez, on parlait de Manchester City, l'ogre de l'Europe depuis des années, et qui là, en championnat, n'y arrive plus. Là, ils sont à 3-0, ils se font renverser. 3-3, c'est dingue. Vous regardez un Mbappé qui marchait sur le football mondial, qui est plus l'ombre.
Ça fait un petit moment qu'il marchait plus sur le football mondial.
Vous regardez ce PSG qui ne tourne pas, qui ne marque pas. C'est pareil. Est-ce que c'est dans les têtes? Est-ce que c'est les spirales infernales? Est-ce qu'il faut invoquer parfois une force supérieure qui fait que? Ou est-ce que.
Au boulot, t'as des explications. C'est ça qui est assez génial. Et pour une fois, le Ballon d'Or a révélé quelque chose, c'est que tu aperçois qu'il y a des équipes, il y a un point d'équilibre. Tu le vois à la Real, ils ont perdu Kroos, ça ne joue plus du tout. Ouais. Mais c'est assez dingue. Et pourtant, ils ont les mêmes joueurs autour. Alors là, il y avait quelques absents, mais tu vois des Kamavinga, etc. Ils étaient très bien quand ils avaient un régulateur au milieu. Le gars, il distribuait, tac, tac, je te la donne. Ça équilibrait tout le monde. Il n'est plus là, il y a un déséquilibre de folie. Parce que moi, je trouve le Real hyper inquiétant. C'est d'une tristesse absolue. Ouais. T'as des joueurs, Mbappé, t'as l'impression qu'il ne sait plus jouer au foot. Non mais c'est simple, tu le vois, mais il fait même pitié, quoi.
Il n'ose plus provoquer.
Ah ouais, il fait les contrôles à 1m50, comme l'avant-centre de Brest. Il est à contrôle à 1m50. Non mais le gars, tu te dis, il y a quand même 3 ou 4 ans, c'est un joueur de classe mondiale qui était redouté par tout le monde, mais là, il fait peine à voir. City,
parle-moi quand même de doute, Fred.
Non mais City, ils ont perdu Rodri. Tu aperçois que bizarrement, ils ont perdu l'équilibre dans leur équipe aussi, quoi. Et tu te dis, c'est quand même assez dingue. Un joueur, quelquefois, te stabilise sans que le joueur soit flamboyant. Quand tu écrouses, tu disais pas, le gars, il a une technique de folie, etc. Ouais. Mais tu te dis, le gars, il sait, ça équilibre ton équipe.
Ils ont perdu De Bruyne aussi, je crois.
Ouais,
ils ont deux grosses pertes.
Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu depuis un moment aussi, De Bruyne. Je trouve ça fait un mot. Non, mais tu vois, par exemple, City, moi, je pensais que c'était lié au fait que Guardiola, tout le monde disait qu'il allait arrêter. Qu'il allait se barrer, et je me disais, tout le groupe, en fait, il tenait son équipe, puis les gars, ils y croient moins. Et en fait, il a re-signé, il a prolongé, a priori. Donc tu te dis, bah, ça va repartir. Et les gars, mais ça tourne pas du tout. Quoi. Ça mais vraiment pas du
le
tout.
Le problème est mental pour moi. C'est-à-dire que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vois que t'as des. Le Neuer, apparemment, sur sa statistique, ça a été lui qui a fait, il a fait plus de dribbles. Parce qu'à un moment donné, il a réussi à dribbler Dembélé. Donc il a fait plus de dribbles que Dembélé, Barcola et je sais plus que l'autre joueur du PSG. C'est quand même inquiétant pour des joueurs qui aiment bien provoquer.
Je voulais quand même parler un petit peu des autres équipes françaises. On a l'impression qu'il y en a quand même deux autres, quand même. Et parler du scénario de Monaco. Qui a été assez incroyable.
Scénario de dingue.
C'est voilà, mais ceux qui ont regardé ça, j'ai pas eu cette chance, j'ai écouté ça à la radio.
Ouais.
C'était bon, c'était un truc de dingue.
Bah,
et,
ouais.
et en parallèle, Lille qui finit par gagner.
Ouais.
C'est bah ça aussi. Il y a des belles histoires là.
Il y a des belles histoires.
Lille, ouais. Genesio, il est en train de se faire un CV, il est en train de battre tous les coachs. Là, il s'est fait Sampaoli dimanche dernier. Avant, il s'est fait. Ouais. Non mais lui, tranquille. Ouais. Je pense que
ouais, il va se dire. Il va aller perdre à Angers aussi. Donc.
Mais là, il est quand même sur une dynamique.
Non, mais c'est bien sûr. Et ça, c'est quand même les belles histoires
sont là.
De cette nouvelle formule. Voilà notre petite page Ligue des Champions. On reviendra peut-être après, Nico, si tu as encore des choses à dire, bien entendu. Mais pour l'heure, on a du Mayenné, on a du pur, on a du bon, on a du sport, là, on a du Tristan Blot. Tristan, t'es avec nous, mon ami, ou quoi?
Ouais, je suis là.
Oh,
il est là.
Oh, Tristan Blot. Alors Tristan, on recadre quand même, c'est le bénévole de l'année hein, et de la décennie. Le mec donne des heures et des heures et des heures de fou à la SPTT volée. C'est pour ça que tu es avec nous ce matin, Tristan. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de N2 nouvelle formule?
Eh ben, nouvelle formule, en tout cas, super formule, parce que pour l'instant, c'est un 100% réussite.
Ouais.
Donc, c'est vrai que les gars, ils font une très belle entrée en matière en ce début de saison. Là. Donc, c'est super, ouais.
Vous êtes où, là? Vous êtes à Noémie Amar, là, au niveau de la salle, pour l'instant?
Et effectivement, ouais. Noémie Amar, depuis le début de la saison. Et donc, la ville nous fait la primauté du prochain match le 7 décembre à la salle polyvalente.
Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut du volleyball le 7 décembre. C'est aussi le week-end, on n'oublie pas, pelote basque. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle.
Pelote basque, effectivement.
Il y a eu pas mal de changements, là, Tristan, peut-être dans l'idée de l'équipe, dans la manière de la manager. On pensait que ce fameux entraîneur, joueur, un peu dirigeant, le fait qu'il soit parti, ce soit un cataclysme, et puis ça tourne, quoi.
Et puis ça tourne, ouais. Bah, en fait, il y a eu aussi une équipe qui est restée stable en termes de joueurs. Il y a eu deux joueurs étrangers qui sont arrivés et qui amènent leur pierre à l'édifice, on va dire. Et puis Will, qui est le coach entraîneur de l'équipe première et de l'équipe réserve également. Il fait pas mal de trucs aussi, lui.
Ouais.
Et comment dire, Will, ben, issu du club, formé au club, puis il a passé tous ses diplômes d'entraîneur. Il fait pour l'instant très bien le taf. Donc, ben, écoute.
D'accord, c'est lui qui a repris.
Les gars aussi, quoi. Donc, il a joué avec eux, il les a entraînés un peu l'année dernière avec quand Glenn était là. Donc, voilà, il fait le job très très bien, quoi.
Parce que t'as ça qui marche. Donc, t'as cette N2, ça c'est la première équipe. Juste en dessous, ben, t'as l'équipe 2 qui est en N3. Donc, gros niveau aussi. Ça donne quoi, là?
Et la N3 chez les garçons, début un petit peu difficile parce que forcément des équipes, vu qu'ils montaient de prénat, ils rencontraient des équipes qui descendaient de N2.
Ouais.
Donc le chassé-croisé est un petit peu, des fois un peu sévère. Donc ils ont pris une petite défaite ou deux. Et puis après, bah, l'équipe qui se connaît de plus en plus, vu que c'est des jeunes aussi qui ont joué aussi dans les équipes jeunes en M15, en M18, bon, ils commencent à bien se connaître. Donc la mayonnaise prend bien. Ils sont au milieu de tableau, là. Je crois qu'ils sont 5e ou 6e sur 10 ou 11 équipes engagées. Donc c'est plutôt pas mal.
Et si vous voulez jouer au volley dans le département, évidemment, faut aller à la SPTT, puisqu'ensuite vous avez de la. Donc sous la N3, vous aurez de la région. Et sous la région, vous avez du département. Équipe que tu entraînes, je crois, Tristan, avec de très bons joueurs dedans.
Avec de très très bons joueurs, effectivement.
C'est moi.
Non, on n'est pas deviné.
Alors attends, moi je mets un petit bémol, je ne suis pas entraîneur de l'équipe départementale, je m'occupe juste du coaching.
Ouais, tu fais bien.
Il y a d'autres gars qui entraînent, moi je peux pas être
tu peux pas.
À tous les entraînements, et moi j'y vais aussi pour jouer, donc j'y vais pas forcément là pour... pour entraîner. Alors de temps en temps, on peut faire 2-3 exos, mais c'est pas mon truc, quoi.
T'as raison. T'as les filles qui tournent, qui étaient remontées un petit peu sur tapis vert.
Super. Ouais. Elles font un bon début de saison. Elles ont eu un petit bémol là, la semaine dernière. Elles ont perdu contre les dernières, donc c'était pas prévu ça. Mais ouais. Mais sinon, elles font un super bon début de saison. Il y a juste le petit couac là, mais elles vont se ressaisir, je pense, pour le prochain match. Il y a un prochain match à domicile avec les deux N3 qui vont jouer dimanche prochain à la salle Noémie Amar.
D'accord, et t'as les jeunes, ça carbure les jeunes. Alors vous avez lu certainement, messieurs dames, comme nous dans la presse, que le tennis de table explosait en termes de licenciés grâce évidemment aux frères Lebrun. Bah là c'est pareil, ce double titre olympique des hommes en volée a fait un bien fou à la discipline. Et là ce club de la SPET, là c'est vrai, il y a du monde à tous les niveaux maintenant là.
Il y a du monde à tous les niveaux. Et puis toi, moi, je m'occupe des filles en départemental. Donc, c'est plutôt des filles qui ont soit un an de volley, soit qui débutent dans le volley. Donc là, on a jusqu'au retour des vacances de la Toussaint, on a toujours eu des licences à créer, donc des filles qui arrivaient toutes les semaines. Et quand on fait le championnat départemental, on constate qu'il y a quand même pas mal d'équipes. Donc, c'est plutôt encourageant pour le volley féminin et pour le volley globalement, quoi. Donc, c'est top.
Oui, mon Tristan, parle-nous un peu du 7 décembre, là, de la semaine prochaine. Un horaire, l'opposition, c'est qui tout... Allez, parle-nous
un
peu.
Ah oui. Alors, l'opposition, bah, grosse affiche, parce que Laval est en N2, là, est deuxième. Et vont affronter les premiers. Donc, Boulogne-Billancourt.
C'est le match de la saison, carrément.
C'est un peu, ouais, c'est ça, ouais. Ça va être un peu l'affiche de la saison avec. Avec un match à 21h et donc pas mal d'animation et puis on espère un résultat favorable pour nous et puis un spectacle, quoi.
Billetterie ouverte.
Billetterie ouverte, ouais, 4 euros l'entrée.
Pas cher.
Donc c'est
pour
pas
la
cher,
salle pause, c'est magnifique.
Ah bah oui,
avec
c'est un vrai spectacle.
Et tout le tointouin.
C'est un vrai spectacle. Bravo Tristan, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour le département au niveau du volley. Parce que oui, monsieur suit les jeunes, il suit les moins jeunes, il suit les filles. C'est incroyable.
Et c'est un sacré coach.
C'est un sacré coach.
Et c'est une belle personne.
Et mets-moi titulaire la semaine prochaine. Oh, non,
tu peux le laisser sur le banc.
Merci Tristan et à bientôt.
Merci à vous. Salut les gars.
Bonne journée, Tristan.
Ciao.
Petite parenthèse, oui, dans l'animation prévue salle polyvalente, il y aura une démonstration de Viet Vo Dao avec des gens que tu connais
avec
bien.
Nos amis,
bien sûr.
Ah ouais, et on avait reçu le Viet Vo Dao, évidemment. Évidemment.
Il y aura toujours un très bon DJ.
Ah, également ouais, c'est une soirée de dingue.
Quelle qualité.
Ça va être top. Messieurs, vous qui êtes à des âges maintenant, ça avance évidemment. Vous avez vu la fin des Griezmann, des Giroud, des Lloris.
J'ai eu la fin de Platini,
la retraite internationale en tout cas. Est-ce que vous pensez que ça, dans des équipes, mais alors que ce soit là, à ce niveau-là ou à nos niveaux à nous, est-ce que le perdre des figures comme ça, perdre des potes, ça enclenche une dynamique dans l'équipe si lui il arrête, moi je vais pas aller au rassemblement à Clairefontaine parce que je connais plus personne, en fait c'est pas mes potes moi les gamins là, et donc je vais arrêter ma carrière comme nous on a pu le vivre dans nos bleds respectifs.
Bien sûr, là tu l'as donné l'exemple, je veux dire Lloris a arrêté, Giroud a arrêté, Griezmann a arrêté, ouais, c'était des potes, quoi.
Ouais, mais donc, tu penses que les mecs arrêtent parce que ils ont vu les potes arrêter ou parce que les stars.
Non, mais
moi,
ça fait partie
aussi
de la décision. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où tu vas au rassemblement, où avant tu avais tes habitudes, on va dire Griezmann c'était le patron, mais s'il avait aussi ses habitudes avec. Ouais. Quand tes copains ils partent, au bout d'un moment tu t'y retrouves moins. Donc je pense que ça contribue au fait que tu réfléchisses plus à dire j'arrive à un âge avancé, il est peut-être temps de laisser la place, quoi.
On gagne ensemble, on perd ensemble et on part ensemble.
Ouais. Et après il se recrée ce qui se crée à nos âges, à savoir on repart les gars, on repart en vétéran tous ensemble et on est content, on va rejoindre le club le bled d'à côté parce qu'on sait qu'il y a nos potes qu'on signait. Toi Nico, t'es dans cette idée déjà ou non, t'es un peu jeune toi encore?
37 ans quand même. non mais si
aussi, après, on a, c'est plutôt convivial. Et puis après, c'est vrai que si tu t'y retrouves plus avec les nouvelles générations et que tu étais habitué à avoir la même mentalité, la même façon de voir les choses avec tes potes, tu te dis, bon, bah voilà, au bout d'un moment, je ne vais plus prendre de plaisir aussi. Donc c'est pour ça, autant retrouver tes potes et jouer avec eux et prendre plaisir avec eux.
Ouais, parce qu'on. Évidemment, ça, tu te dis, bah le mec, c'est encore pas la fleur de l'âge, bien entendu, mais tu dis, ils ont quand même des belles années encore, les Griezmann et compagnie. Mais voilà, c'est peut-être une ambiance qui est perdue, c'est peut-être.
Un positionnement. Je veux dire, c'est que c'est cette génération-là qui avait le pouvoir. Le pouvoir a été pris par la génération suivante.
Ouais.
Et donc.
Ouais, c'est vrai aussi ça.
Quand t'as été calife, t'as pas trop envie de te retrouver sur le côté. Enfin, je veux dire, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais c'est. Enfin, je suis sûr que la gestion du quotidien, du repas, du truc, les gars s'y retrouvent pas.
Enfin, pour l'instant, ils sont pas califs, ils sont en barrage encore.
Ah, pas mal. Non, mais on avait connu ça avec Thierry Henry, notamment l'histoire du bus, etc.
Voilà.
Tu sentais les gars, ils se retrouvent pas avec les jeunes. Donc,
ouais. Et lui, lui, il avait l'amour de l'équipe de France, mais on l'a désavoué en lui donnant pas le brassard dès le départ. C'est-à-dire qu'il était emmené pour être pris comme remplaçant. Après, il l'a bien cherché parce que, bon, bref.
Mais je pense que c'est ça qui a été décisif sur le.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme débat parce que quand on sait qu'un petit jeune un jeune professionnel, mais il veut bien faire que du banc.
Ouais.
Mais je veux aller à Clairefontaine, même que du banc. Hein.
Ça, allez, c'est sûr.
Et le jour, il joue, où j'ai 2 minutes dans les arrêts de jeu, mais il est heureux comme tout, quoi.
Et tu sais, t'acceptes. D'être 20 fois remplaçant, peut-être 20 fois tu vas à Vladivostok, à l'autre bout du monde là-bas, pour attendre, pour être dans le froid, pour machin. Sauf qu'à un moment, c'est stop, les mecs, hein, Nico.
Et je pense qu'à Griezmann aussi, c'est que tous ces grands joueurs qui ont fait l'équipe de France et qui sont restés jusqu'au bout, en général, hormis Henri que j'ai cité, mais sinon, ils ont toujours été mis en avant et toujours eu leur place quasiment d'assurer. Et à la fin, c'est que Griezmann, il était. Un peu contesté, il était plus forcément sa place était en jeu et donc il voyait qu'il était remplaçant et tout, etc. Et pas au poste qu'il voulait, il était toujours travaillé à droite. Donc à un moment donné, il a dû dire ah ouais, si en plus mon statut est remis en question.
Et puis ils ont plus rien à prouver des joueurs comme ça.
Il y a une lassitude.
Ouais, mais ça doit être. Enfin ouais, après ça doit être dur aussi. Quand tu fais l'analyse, tu dis toujours il y a eu la compétition de trop. On l'a connu avec Thuram en 2004, je crois, le chemin d'Europe ou les.
2008.
Ils jouent en 6
encore. Ouais,
ils sont
2006. Non, 2008.
Ouais, 2008. Ils sont à l'ouest. On a. C'est très très dur. Je pense que ça doit être dur quand t'es un gros compétiteur. Ça doit te faire mal quand même. Mm. Alors, effectivement, là, je pense que Griezmann n'a pas aimé et le brassard et le fait d'être remplaçant. Là, il a dû dire les gars, c'est bon.
Et toi, aux finances, tu crois pas que t'as fait peut-être la saison de trop?
Ah non, parce que moi, il me réclamait encore. Je leur disais, il disait bien joué. Mais tu sais que j'ai plus de genoux. Mais viens quand même.
Et ça, tu vois, là, on se parle de partenaires, de se retrouver entre potes à Clairefontaine ou nous dans nos bleds et machin, truc, chose. Mais est-ce que ça, c'est pas la même chose avec des adversaires? Tu vois, toute cette génération de monstres là, qui a arrêté au tennis en même temps, là. Est-ce que tu dis, j'affronterai plus Nadal, j'ai plus envie d'y aller.
Il y a un super exemple, c'est la Formule 1, c'est Prost-Senna.
Ah oui.
Il faut quand même savoir que Senna, quand il se tue en Grand Prix, la veille aux essais, Prost est commentateur et Senna commente tout en roulant dans les essais et il dit à tout le monde, il dit Alain, alors qu'il se détestait quand il était Alain, tu me manques, j'ai plus il avait plus la niaque parce qu'il est plus son adversaire. Et tu te dis dans l'adversité les gars se reconnaissent. Et effectivement, je pense qu'au tennis Nadal sans Federer, même Djoko, là, on a bien senti, il va se relancer, mais ça fait tout drôle. Là, il n'a plus les mêmes objectifs, parce que son objectif, c'était de battre les deux autres, d'être meilleur que les deux monstres. Et maintenant, je pense honnêtement, c'est moche à dire, mais je pense qu'il s'en fout du petit gars qui vient de gagner même un énorme tournoi.
Et puis les mecs ils connaissent leur jeu, vers quel match ils vont, ils savent ce qui va se passer en fait. Alors que là, ils tombent dans l'inconnu.
Et puis vibre pour ça, quoi.
Ça les amène à se surpasser aussi, comme un peu Messi et Ronaldo, quelque part.
Et sans cette adversité, c'est sûr que tu perds un peu, que ce soit en tant qu'adversaire ou en tant que partenaire, c'est difficile les changements de génération.
Mais c'est dur de savoir s'arrêter aussi. Tu prends l'exemple de Ronaldo. Ouais. Ronaldo, on va se dire, il met des buts, il est encore compétitif. Mais quand tu regardes les matchs du Portugal avec Ronaldo, c'est dramatique.
Ouais.
Il sait plus courir, il a plus de conduite de balle, il se prend les pieds dans le tapis quand il pousse ce ballon. Mais t'as juste envie de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui dire un jour, arrête, stop, quoi. T'es
personne,
un joueur
tu
fabuleux.
Peux pas.
Et là, ça devient, mais je te dis, ça devient pathétique, quoi.
Tu peux pas, si ça vient pas de toi, un mec comme ça, qui va lui dire ça? Excusez-moi, monsieur Ronaldo, faut s'arrêter.
Là, tu te dis, t'as l'impression qu'il a les chaussures trop grandes, il se prend les pieds dans le tapis, je te dis, c'est.
C'est coups francs qui sont impressionnants.
Ah ouais, bah ouais. Bah
avant, c'était un penalty limite pour lui parce que tu dis il va envoyer un scud cadré. Comment il perd en coups francs
Il faut savoir finir. C'est pas facile de savoir finir, évidemment.
Même une émission.
Tout à fait, mon Lionel. Bah nous, on s'arrête là en tout cas. On s'arrête là. Pas la phrase de trop, bien entendu. C'est aussi ça, sport épique. Donc, messieurs, merci beaucoup. Baba a été formidable. On le remercie encore. Et nous, on se revoit dans 15 jours, hein, encore pour des petits moments épiques. Vous attendez ça déjà. Il y aura de. D'ici là, on aura eu. Qu'est-ce qu'on aura eu? On aura eu le tournoi de pelote.
Tournoi de pelote. Mais moi, j'ai entendu parler qu'il serait pelote. Non, il sera bien maintenu.
Oui, il sera maintenu. D'accord. Il sera maintenu. On aura les joueurs. On aura les joueurs.
Peut-être une victoire du PSG. Ah non, toujours pas.
Non, on attendra pour ça. Allez, messieurs, bon sport. Soyez forts cet après-midi. Et on vous dit à dans 15 jours.
À bon dimanche. Merci.